Bonsoir à tous et merci de votre présence pour cette première table ronde du festival Cinéma Science, un festival que beaucoup d'entre vous doivent connaître maintenant puisqu'il s'agit de la troisième édition. Cinéma Science donc qui débute aujourd'hui, c'est juste après cette table ronde qu'il y aura la cérémonie d'ouverture. Et Cinéma Science, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival de films qui ont pour trame un sujet scientifique. C'est un festival de véritables films, de films de fiction, de longs métrages. Ce ne sont pas des documentaires, ce ne sont pas des films scientifiques. Ce sont des films dont le scénario s'appuie sur un sujet scientifique. Donc ce sont des films que vous allez pouvoir découvrir tout au long de la semaine et qui peuvent parler aussi bien de conquête spatiale que d'obésité. Pour ne citer que ces deux exemples. Donc ces films, ce sont indirectement des outils de médiation scientifique. Cinéma Science est un outil de médiation scientifique et c'est un sujet que nous allons justement aborder ce soir ensemble avec nos trois invités prestigieux. Tout d'abord Jean-Jacques Benex, qui est à ma droite et que vous connaissez bien évidemment, le réalisateur de Diva, de La Lune dans le caniveau, de 37 de le matin, et qui est le parrain depuis le début du festival Cinéma Science. Bernard Allot, qui est directeur de Cap Science. On le disait tout à l'heure, c'est le régional de l'étape, mais aussi l'international de l'étape, tellement Cap Science rayonne bien au-delà des frontières de l'Aquitaine. Et puis Catherine Bréchignac avait été annoncée dans un premier temps. Elle a été retenue depuis. Ça n'est pas vous, Philippe Walter. Effectivement, nous ne perdons pas au change avec Philippe Walter, qui est directeur de recherche du CNRS, médaille d'argent du CNRS, et qui mène des recherches originales. Et on va commencer par vous, si vous voulez bien, puisque donc vous dirigez, co-dirigez un laboratoire de chimie, mais qui est installé au musée du Louvre. Donc là, on est entre deux mondes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont vos recherches ?
On n'est pas entre cinéma et science. On ne travaille pas jusqu'au cinéma. Un jour, je pense qu'on ira jusqu'à cette direction. C'est un laboratoire qui cherche à utiliser les techniques scientifiques pour comprendre les œuvres d'art, pour comprendre l'histoire des techniques depuis les origines de l'humanité. Comment les peintures des grottes ornées, par exemple de Dordogne, proche d'ici, ont été réalisées ? Comment Léonard de Vinci a peint la Joconde ? Ou bien pourquoi certains pigments de Van Gogh se décolorent ? Et on a une autre vision aujourd'hui de l'artiste. Et donc on a un laboratoire associé au CNRS, du ministère de la Culture également, avec beaucoup de personnes de profils très variés, pour essayer de retrouver cette histoire des techniques. Et donc il y a aussi l'occasion, bien évidemment, de participer à beaucoup d'expositions, notamment, de façon à essayer de faire diffuser cette histoire des techniques, histoire des technologies, histoire de l'art, auprès du plus large public.
Et donc vous travaillez sur des thèmes qui sont médiatiques, donc vous êtes régulièrement en contact avec des journalistes.
La Joconde est médiatique, c'est terrible. Oui, ça marche.
Donc vous êtes confronté souvent aux journalistes scientifiques, mais également vous avez dirigé vous-même des expositions, justement. C'est vraiment dans vos réflexes d'aller à la rencontre du public. Vous faites à titre personnel de la médiation scientifique.
À titre personnel, parce que je considère que c'est très très important quand on effectue ce type de recherche, d'essayer de les valoriser et puis d'essayer d'en tirer quelque chose qui puisse faire rêver le plus grand nombre de personnes. Il y a un apport de connaissances, c'est un apport historique, mais également il y a une possibilité de montrer les origines très anciennes de la science, des propriétés agréables de toute une série de technologies découvertes au cours du temps, ce qui n'est pas toujours ce qu'on entend dans les médias. Donc en prenant un point de vue historique, on arrive à donner une autre dimension. C'était le cas sur la beauté, où on a pu justement montrer qu'en Égypte ancienne, les phares pour les yeux n'étaient pas que esthétiques, ils étaient aussi religieux, ils étaient aussi médicaux. Et donc, dans ces origines, finalement, de ces traditions de beauté, on avait une complexité qu'on avait peut-être oubliée de nos jours.
Alors, Philippe Walter, qui est également membre du jury du festival, j'ai oublié de le préciser. Bernard Allot, je me tourne vers vous, même si Cap Science est très connu ici à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Cap Science s'implique dans la vulgarisation scientifique, la médiation scientifique, à travers différents modes ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu quelles sont vos actions ?
Oui,
c'est pas seulement des expositions.
Non, ce sont des expositions, effectivement. C'est tout un ensemble d'outils adaptés aux différents types de publics, effectivement. Je crois que ce qui est important, c'est de répondre à la demande et de configurer des outils qui correspondent bien aux attentes du public. Et c'est vrai que le béotien et le spécialiste ne vont pas demander la même chose, ne vont pas utiliser le même outil que les jeunes, que le grand public, que les personnes d'un certain âge, etc. Donc on essaie, en fonction de ça, en fonction des publics, la segmentation des publics, on dirait, d'offrir des outils qui sont pleinement adaptés. Alors ça va d'exposition, qui sont des moments de où on va dans un univers, on pénètre dans cet univers des sciences, des techniques et de l'industrie. Ce sont aussi des moments d'animation où on fait toucher du doigt la réalité des sciences et des techniques, où, sans parodier, mais c'est Anaxagore qui disait « l'homme pense parce qu'il a une main », donc on essaie dans beaucoup d'activités de CapScience, de faire toucher du doigt la réalité du monde des sciences et des techniques. Et puis on essaie aussi, il y a des outils d'édition, on a des journalistes qui permettent de diffuser l'information sciences et techniques. Les sciences et les techniques, c'est aussi des débats, c'est l'objet de débats, et donc on fait des conférences, des débats, on fait des événements aussi, et puis on s'associe pleinement au festival Cinéma Sciences qui se déroule ici et qu'on est ravis d'accompagner. Et on fait aussi, bien évidemment, beaucoup d'activités d'ingénierie, ce qui est souvent ignoré de la part de CapScience, c'est-à-dire d'accompagner des collectivités ou des acteurs qui souhaiteraient introduire des ingrédients scientifiques dans leur développement. On a, par exemple, tout récemment, participé à définir le programme du quartier des sciences de Toulouse, qui est un énorme programme. Comme aujourd'hui, on est en train, en Guadeloupe, de redéfinir un concept qui, sur la base d'une ancienne usine de canne à sucre, comment on peut le retransformer en centre de sciences et de tourisme. Donc c'est toute une palette d'activités adaptées au public, expos, animations, rencontres, débats, ingénierie de projet.
Vous avez parlé de différents publics. Est-ce qu'il faut aborder chaque public de façon spécifique ? Quels sont, pour vous, ces différents publics ?
Je crois qu'effectivement, on a différents publics, différents types de connaissances, mais on a un fond commun. Je crois qu'il y a le côté, j'allais dire, raisonnable et le côté sensible. Et je crois qu'il faut savoir, sur cette base-là, on a des formatages de pensée qui sont liés à la société, à l'évolution de cette société. Il faut savoir un petit peu tenir compte de cette réalité-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a tous une fantastique avidité de comprendre notre environnement. C'est pour ça qu'on délivre une connaissance qui est toujours validée par un conseil scientifique. Ça, c'est fondamental. Je crois qu'on a tous une fantastique avidité de rencontrer l'autre. Donc, on essaie d'avoir une interactivité humaine qui n'est pas qu'informatique. C'est le principe de rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est faire toucher du doigt, je l'ai dit tout à l'heure, une partie animation. Et puis je crois qu'on a tous en nous une petite molécule de rêve qu'il faut savoir mobiliser pour motiver le public et lui permettre de pénétrer dans des univers. Je crois que la transition va se faire tout facilement. Je crois que le cinéma participe à mobiliser cette petite molécule de rêve que l'on a en chacun d'entre nous, mais qu'on soit jeune, béotien, spécialiste ou âgé, elle est toujours là. Et je crois qu'il faut savoir la faire fructifier.
Alors justement, Jean-Jacques Benex, vous, il y a 2 ans, quand vous avez été sollicité, vous avez vraiment accepté avec enthousiasme de parrainer ce festival. Et c'est donc la 3e édition. Vous avez toujours le même enthousiasme. Et est-ce que vous vous rappelez justement ce qui vous a amené à vous intéresser aux sciences ?
Ah, c'est... Pardon, 3 ans, c'est les piquets et les espaces. Donc en fait...
C'est la 3e année.
Ce qui m'a motivé, c'est la curiosité. D'abord, c'est passé par le CNRS, bizarrement. Parce que je faisais partie de ces milliers, millions de Français qui entendent ou qui lisent tous les jours le sigle CNRS et au fond ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que comme il est partout, le CNRS, il est nulle part. Et un jour, la vie a fait qu'on m'a proposé de faire un film... pour raconter le CNRS en 15 minutes. C'était à peu près la quadrature du cercle. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, parce que c'était absolument impossible. Et de ce fait, ça m'a amené à investiguer un peu qu'est-ce que c'était que le CNRS, après tout. Pourquoi j'en entends autant parler ? Parce que c'est bizarre, il y a un type, on fait un truc sur les guérilleros, les FARC, il y a un gars du CNRS. Bon. Très bien. Le lendemain, c'est la crise des monnaies et il y a un autre gars du CNRS. Le surlendemain, c'est les Moudjik, un autre du CNRS. Mais c'est quoi cet engin ? C'est un engin très sérieux, énorme, avec des chercheurs, avec des territoires extrêmement variés. Et surtout, ça va de la chimie aux sciences humaines. Alors c'est l'univers, c'est le monde, c'est l'espace, c'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc prenons, je sais pas, est-ce que, par exemple, un type comme Stanley Kubrick, Il parle de ça. Donc le cinéaste que j'étais s'est trouvé mis au défi d'essayer, et bien entendu c'est absolument impossible, de raconter le CNRS en 15 minutes. Donc ça a été un des plus grands défis qu'on m'ait jamais proposé. La chance a fait que, dans mon jeune temps, je suis passé par la faculté de médecine. Donc j'ai une petite propédeutique scientifique qui me permet de ne pas être totalement largué quand on parle de science ou de chimie ou de physique ou d'optique, parce que cinéaste, c'est quelqu'un qui doit aussi s'intéresser aux sciences. Et puis les artistes, quand M. Walter vous parle des momies et vous parle du phare, les couleurs, c'est des longueurs d'onde. C'est des sentiments, c'est des fleurs. Ce sont aussi des choses qu'on a décidées. On ne discute jamais des goûts et des couleurs, et pourtant, on passe son temps à ça dans le cinéma. Et on le met en forme, avec une méthode. La méthode scientifique, ce n'est pas la pire. À mettre un peu de méthode dans son art, c'est pas inintéressant. Je pense qu'il y a une rencontre formidable entre l'art et les scientifiques. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'artistes sont passionnés par les sciences et beaucoup de scientifiques sont des artistes. L'exemple de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci, c'est des gens qui étaient des maîtres de l'architecture, de la peinture, qui dessinaient les perspectives, etc. C'était des gens qui étaient extrêmement calés, extrêmement vastes. Aujourd'hui, un cinéaste, il travaille en équipe, comme un chercheur. Il n'est jamais tout seul. Il a une équipe, comme un scientifique a un atelier. Il sait ce que c'est que le hasard. Le hasard et la nécessité. On fait tomber une éprouvette, ça fait quelque chose. On va trouver tout d'un coup quelque chose qu'on ne cherchait pas. Mais il va falloir avoir cette curiosité, cette capacité d'adaptation. Bref, je pensais qu'il y avait un regard extraordinairement passionnant, un effet miroir entre le cinéma et les sciences. Et aussi, quelque chose qui me semblait extrêmement intéressant, c'était de réunir dans un endroit comme Bordeaux, c'est pas la plus mauvaise ville de France pour ça, des scientifiques et le public, en se disant, au fond, c'est une expérience à échelle grandeur nature, parce que on va faire un précipité, on va mélanger, il va forcément naître quelque chose de ça. Parce qu'il y a un appétit extraordinaire dans le public pour les sciences et une idée un peu reçue que les sciences, c'est ennuyeux. Il se fait qu'en exerçant mon métier, j'ai souvent rencontré des gens qui décident des programmes et qui disent « Ah non, la science, non, ça, c'est pas intéressant. Ah non, c'est chiant. Ah non, oh, pas la science. »
Alors justement, il y a souvent cette difficulté, c'est que tous les sondages le montrent régulièrement. Les Français disent que la science est un de leurs sujets favoris, c'est un des sujets qu'ils attendent de voir traités en priorité dans les médias. Et malgré tout, on a le sentiment que la science recule dans les médias et à la télévision en particulier, où il n'y a pratiquement plus d'émissions scientifiques. Et à chaque fois qu'une émission scientifique est lancée, elle ne dure que quelques mois, un ou deux ans. Et on a l'impression, effectivement, que les responsables reculent, qu'ils sont presque effrayés par le fait de parler de science. Comment vous l'expliquez, ce décalage entre les sondages d'opinion et puis la présence de la science ?
En tout cas, pour ma part, j'ai envie de dire que, en ce qui concerne CapScience, on ne vérifie pas ça. Au niveau de CapScience, c'est quasi le lieu culturel le plus visité de Bordeaux aujourd'hui. On fait 90 000 personnes. Donc ça prouve quand même qu'il y a une appétence et un intérêt du public. Et quand je dis ça, c'est pas que des scolaires, c'est pas que des groupes en loisirs. C'est du grand public. C'est 50% de groupes, c'est 50% de grand public. Donc il y a une réelle appétence pour cette culture. Et on se bat effectivement les uns et les autres pour intégrer la science sur l'échelle des valeurs de la culture, comme la littérature, le sport, le théâtre. Donc je crois que si c'est traité d'une certaine façon, si on fait pénétrer les gens dans un univers, si on leur fait éprouver du plaisir de la découverte, et qu'en ressortant de là, ils sont ravis de ce qui s'est passé, je pense qu'en quelque part, et si on humanise tout ça, parce que bien trop souvent, au niveau de la télé, c'est la science, c'est comment ça marche. Mais on ne met pas derrière de l'humain et l'homme. Et je trouve que c'est un peu ce manque qui fait qu'à un moment donné, on ne personnalise pas, On ne dit pas, vous voyez, on pontifie ou on met peut-être sur un piédestal le scientifique inaccessible, alors que c'est monsieur tout le monde qui nous fabrique des objets de tous les jours, qui a des préoccupations de tous les jours. Et c'est ça qui est, je crois, important de souligner. C'est sûrement le mode d'approche et de la relation à la science qui est important pour que, à un moment donné, le public ait envie d'y aller. Parce que trop souvent, la représentation de la science, c'est la représentation de ce qu'on a vécu au niveau scolaire, du cours de maths, du cours de physique. T'inquiète pas, on verra plus tard à quoi ça sert la physique, tu verras plus tard à quoi ça sert les maths. Et donc aujourd'hui, c'est de replacer ça dans un contexte, de le replacer dans une perspective, et c'est ça qui est important. Donc faire pénétrer les gens dans un univers... en contextualisant, en faisant éprouver du plaisir, en éprouver des émotions, et en mariant le raisonnable et l'émotif.
Oui, c'est vrai que dans cette question-là, en fait, les médias, la télévision, pour faire des reportages, va vouloir une découverte. Donc, va se focaliser forcément sur une découverte scientifique faite par quelqu'un. Donc, dans le domaine des sciences humaines et sociales, l'archéologue a sa place à la télévision très fréquemment, parce qu'il a sa fouille et il découvre quelque chose. Il découvre... une épave sous-marine, il la fouille, il la révèle. Donc là, ça devient très simple. Dans les sciences de la vie, dans la physique, dans la chimie, cette découverte au jour d'aujourd'hui paraît beaucoup plus abstraite, beaucoup plus difficile à comprendre. Va ramener ces vieux théorèmes, peut-être qu'on déteste par l'éducation que l'on a eue. Pourquoi c'est important ? Et en fait, cette dimension historique est primordiale. Donc moi, c'est des choses sur lesquelles je joue. J'ai eu l'occasion de faire une exposition importante à Paris, au musée de Cluny, au musée du Moyen-Âge, sur cette histoire de la beauté antique et médiévale. Et avec ma collègue conservatrice du musée, on l'a fait ensemble, cette exposition, pour montrer la dimension scientifique de nos recherches et faire comprendre au public, finalement, que ces objets archéologiques, on les révélait différemment si on les regardait à travers un autre filtre, celui de l'inventivité. Ces produits de beauté sont synonymes d'une très grande inventivité au cours des âges. Et pour ça, on a juxtaposé toute une série d'éléments, les vrais éléments archéologiques, bien montrés, et puis des éléments chimiques de laboratoire, montrant comment ces matières étaient réellement, et puis même des petites vidéos. Et c'est là où c'est un travail très, très sommaire que nous avons fait. Et en regardant les visiteurs, j'ai passé des heures dans l'exposition à regarder les visiteurs, ils restaient à côté de ces petites vidéos qui, pendant 1 minute 30, montraient dans un laboratoire de chimie moderne, parce qu'on ne voulait pas faire une reconstitution, ce qui avait été fait il y a 3000 ans, ou il y a 2000 ans, par exemple, à Pompéi, expliquant le texte ancien à travers le filtre du regard du chimiste d'aujourd'hui. Et ça a très bien marché. Donc la dimension historique est un très bon vecteur. Là, on passe sur des périodes très anciennes, mais on peut passer sur des périodes beaucoup plus récentes et justement montrer davantage ce que sont les chercheurs, leur travail quotidien et leur évolution personnelle au cours de leur carrière, par exemple, pendant quelques dizaines, vingtaines d'années, la façon dont ils voient l'évolution des choses.
Donc vous êtes chercheur, vous avez ressenti le besoin d'être commissaire d'exposition, donc d'aller directement au contact du public. Est-ce que c'est parce que vous étiez frustré si jamais il y avait des intermédiaires, que ça, les journalistes ou d'autres intermédiaires ne rendaient pas assez bien compte de vos recherches ?
Les journalistes vont le faire à leur manière, avec leur regard. Quand on peut concevoir, quand on a la chance de concevoir une exposition, on a la possibilité d'avoir des moyens importants pour choisir un ensemble d'objets et créer un discours. Donc c'est un vrai travail de recherche. Et on arrive comme ça à concevoir quelque chose. C'est ce que vous faites également pour diffuser sur certains domaines le savoir. Et donc on a construit réellement une recherche autour de cette exposition. Et donc ça a des implications éventuellement dans la muséographie. Et ça a même eu des implications fortes, puisque le scénographe de l'exposition a voulu concevoir sa scénographie comme un laboratoire. Et donc reprendre des notions de laboratoire pour mettre en valeur les œuvres archéologiques. Donc on a cette possibilité, et quand un chercheur a cette chance de pouvoir associer les différentes dimensions, ça devient tout à fait passionnant.
Donc c'est justement la particularité de Cinéma Science de proposer aux chercheurs et au public de se rencontrer directement, puisque chaque film est suivi d'un débat avec des chercheurs sur le thème qui était abordé par le film. Est-ce que donc, selon vous, on a besoin de ce contact direct entre chercheurs et public ? Est-ce que, encore une fois, les chercheurs sont forcément les mieux placés pour parler de science ? Est-ce que parler de science, finalement, c'est pas un métier ?
Ouais, c'est certainement pas les plus mal placés. Enfin, ça, il faut quand même être sérieux. Pourquoi ils seraient les plus mal placés ? Pourquoi est-ce que ça devrait être des intermédiaires ? Le regard de l'artiste est certainement un regard qui peut très bien se conjuguer avec le regard du scientifique. Ce qui me fascine chez tous les chercheurs, enfin la plupart des chercheurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer, c'est que leur vie était de véritables aventures, c'était de véritables films. C'est extraordinaire. Comment, pourquoi, tout d'un coup, celui-là qui avait commencé à faire des études dans un certain domaine s'est retrouvé à être passionné par les momies et à aller faire des fouilles anti-Noé, et puis comment, petit à petit, etc. Et puis ça dure des années. Il y a des trucs qui restent dans des tiroirs. Les œuvres sont disséminées dans la France entière. Et il y a des gens qui, toute leur vie, vont travailler sur une méthodologie pour retrouver les objets, les classer, les inventorier. Comment ils vous expliquent que l'objet n'est plus situé parce qu'il est sorti de son contexte. Or, un objet, c'est pas seulement l'objet lui-même, c'est son contexte. Bref, c'est tout un cheminement intellectuel, toute une pensée, toute une formation qu'il est important de faire suivre aux autres générations. Nous avons ça en commun, c'est le bien universel et le bien humain. Donc on dépasse les clivages, on dépasse les frontières. Si vous l'écoutez, vous parlez, il va être passionnant parce qu'il est passionné. C'est l'histoire d'une passion. Et je pense que si ça ne marche pas, c'est d'abord parce que souvent, les gens qui décident des programmes sont des bureaucrates qui sont dans un système où on a fini par fabriquer des standards et où on passe son temps à essayer de rationaliser les choses et donc de vouloir mettre que les œufs deviennent carrés pour qu'ils puissent rentrer dans des boîtes. Or, dans la science, on s'aperçoit que ce n'est jamais comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter ces savoirs avec l'appétit de connaissance. Et une chose vraiment qui me frappe, c'est la passion. Les chercheurs sont passionnés, sont des gens passionnés, et donc passionnants. Alors il faut passer sur le fait qu'on peut se dire que c'est pas intéressant. Non, en réalité, si on les écoute, ils vous entraînent, ils vous emmènent dans leurs histoires. Et donc le festival, c'est une interface.
Donc finalement... Oui, Bernard Lou.
Non, j'adhère tout à fait à ce discours-là. C'est ni plus ni moins, c'est la capacité à raconter, à faire partager sa passion, cet esprit d'aventure, etc. Deux anecdotes qui m'ont marqué au niveau des Cap-Sciences, c'est la première année où on a ouvert, on a rencontré un laboratoire de géologie où on a immédiatement détecté qu'ils avaient de l'or dans les mains pour raconter l'évolution du trait de côte de la côte aquitaine aujourd'hui. Ils étaient tout à fait avec beaucoup de passion dans leur sujet, dans leur contenu, mais pas du tout enclin à vouloir expliciter, etc. Donc on les a accompagnés à un moment donné pour mettre ça en valeur. C'est extraordinaire d'imaginer qu'il y a 300 millions d'années, une météorite est tombée vers Périgueux, qu'il y a 200 millions d'années, on avait des cocotiers, ou à une période tropicale humide, des cocotiers à Blaye, qu'à l'époque, après, ça a été la période quaternaire, enfin la période glaciaire, avec des icebergs qui flottaient au large de la côte qui était à 100 km de la côte actuelle, qu'on comprend mieux pourquoi il y a des huîtres sur les parois de murs à Mont-de-Marsan. Enfin bref, on lui a dit, mais attends, là, tu as de quoi raconter une histoire. Et donc là, à partir de là, c'est après lui qui a pris le dessus et qui nous accompagne. Et il n'a plus besoin de médiation, etc. On a, à un moment donné, catalysé, parce qu'on a senti que ça devenait, pour le public, quelque chose qui était méconnu et peu identifié. Le deuxième exemple, je ne voudrais pas abuser, mais le deuxième exemple, c'est les portraits de scientifiques, pour corroborer ce que je disais tout à l'heure. On évoque toujours la science sur le mode comment ça marche, dimension très technique. Et nous, on essaie de mettre en valeur les chercheurs. À un moment donné, on a décidé de faire des marque-pages en faisant des photos artistiques de ces chercheurs et en ayant juste une toute petite phrase qui touche le quotidien. Alors, on a avec certains chercheurs les pires difficultés, parce qu'ils disent « on ne peut pas réduire ma recherche à une phrase toute simple ». Donc on se bat des jours et des jours avec certains pour arriver à traduire, et c'est quand on arrive vraiment à un accord, c'est extraordinaire. Et d'autres qui immédiatement appréhendent cette réalité et vont d'une signature bien appréhendée qu'on peut faire des concessions parfois avec sa recherche et que c'est pas pactisé avec le diable que d'essayer de communiquer avec des médias, avec du grand public, etc. Donc là, on a ni plus ni moins, effectivement, des scientifiques qui peuvent être et raconter des histoires eux-mêmes parce qu'ils sont passionnés, parce que ça transpire tellement. C'est exceptionnel. Ils vous les amènent dans leur univers. C'est exceptionnel. Et puis d'autres qui peuvent vous y amener, mais ils sont peut-être un peu plus humbles, un peu plus timides, un peu plus... C'est chacun d'entre nous. Il y a des artistes qui sommeillent, des médiateurs. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir dire parfois que les enseignants enseignent, que les gens de la culture développent cette dimension, que les chercheurs cherchent, et qu'on essaie, et c'est après en croisant tout ça qu'on doit faire un cocktail intéressant pour le public.
Donc finalement, selon vous, le moteur, c'est la passion. Hein. Si je résume un peu ce que vous venez de dire, les chercheurs passionnés arrivent à faire passer leur travail, leurs résultats auprès du public. Et ceux qui ont moins de facilité, on va dire, ont là besoin d'intermédiaires.
Mais ça passe par des interfaces et par il y a des passeurs. Et les passeurs naissent d'une rencontre. Il faut bien avoir vécu, avoir connu quelqu'un qui a vécu pour pouvoir le raconter. Il y en a qui savent mieux raconter, mais on part quand même d'un savoir. C'est-à-dire qu'il faut... C'est frappant quand vous voulez faire un film sur quelque chose, ben vous vous immergez. Et donc, il faut aller rencontrer des chercheurs, il faut aller dans les labos, et on s'aperçoit que c'est carrément, chaque fois, une aventure. C'est une aventure, parce qu'on regarde toujours les choses. C'est l'aspect, mais c'est aussi le toucher, c'est aussi de quoi c'est fait. C'est le côté macroscopique, c'est le côté microscopique, c'est l'infiniment petit. Il y a une histoire, et c'est toujours révélateur. Il y a toujours un homme derrière ça. Et cet homme, il a une histoire, et c'est pas un hasard, ou c'est un hasard s'il a rencontré l'objet. Mais cette chose, comment dire, prend une signification dès lors qu'on s'interroge sur l'humain. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc tout est lié, on n'est jamais tout seul, c'est une chaîne de savoir, il faut la démonter. Il y a un chaînon manquant, on va essayer de le trouver. Notre salut dépend de ça, au fond. C'est passionnant, quoi. Et en allant chercher introspection dans le passé, on comprend le présent, qu'on peut en déduire l'avenir. On se situe. Donc, on se situe dans l'espace, dans l'histoire, et peut-être même dans le cosmos. Donc, il y a toute une partie qui est complètement poétique. La mission Rosetta, par exemple, d'aller rattraper une comète... d'aller attraper une comète qui tourne dans l'espace, quand elle passe près du soleil, elle se réchauffe. Alors quelque chose, elle commence à émettre des gaz, elle fond un peu, alors, et puis hop, elle passe, et puis elle repart. Et alors à un moment, on a lancé une fusée avec un satellite qui va rattraper ce truc-là, c'est extraordinaire, il va finir par se poser dessus. Et cette comète, c'est un reste... de l'explosion primitive, peut-être, alors elle va nous donner des idées sur sa composition, sur son histoire, et puis elle va repartir avec cette comète et disparaître dans l'infini. Mais si ça intéresse pas les gens, moi je dois changer de métier. Hein ? Ces histoires extraordinaires. Mais on peut prendre l'histoire de chaque molécule, et c'est la même chose. Si on nous doit tout les atomes, etc., c'est le vide. La nature, c'est vide. L'infiniment petit, c'est vide. Oh, quoi faire des films ?
Je pourrais utiliser le terme d'explosion.
Oui, oui, surtout que c'est un lapsus.
Alors, je trouve ça tellement beau.
L'explosion, c'est pas mal. Ouais.
Mais alors, vous l'avez dit, il y a des histoires bien souvent extraordinaires derrière ces scientifiques, derrière leurs recherches. Et en même temps, il y a des scientifiques qui sont frustrés parce que, justement, on leur réclame souvent des histoires. Ils ont le sentiment qu'on leur demande de parler de choses à côté de leurs recherches. Oui. Et ils sont frustrés par ça.
Mais ça, je pense... Alors, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole. C'est parce qu'on ne les comprend pas. C'est parce qu'ils sont des gens aussi honnêtes. Et ils voient bien qu'on parle à côté de ce qu'ils font. Et qu'en fait... alors là, on est en train de parler de ce qui peut ressembler à certains journalistes. Et ça, c'est pas les bons. C'est-à-dire... C'est comme le pouvoir qui dit aux scientifiques « Des applications, la recherche fondamentale, oui, bon, d'accord, mais ça prend du temps. Faut trouver. On aime bien les chercheurs qui trouvent. » Ah, mais non. Alors c'est là où on se retrouve dans une obligation de moyens, de résultats, et devant quelque chose où on veut comprimer le temps. Ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps, il faut de la poésie, il faut du rêve, et il faut aussi des gens qui sachent regarder et écouter.
Bernard Allot, vous y êtes confronté à ça avec les scientifiques. Il y en a régulièrement qui n'ont pas envie qu'on raconte une histoire, qui ont envie qu'on parle de leur recherche de façon très directe et en détail.
Non, je crois qu'il faut savoir respecter effectivement leur savoir. Et à partir du moment où on a de la considération et une véritable écoute, je crois que là, il n'y a plus aucun problème. Mais il faut les laisser dans leur créneau et pas leur faire jouer le rôle dans d'autres secteurs et croire. Parce que derrière le mot science, c'est une telle diversité de savoirs, de connaissances qui font de la chimie ou connaissances sociaux, etc., que c'est tellement vaste qu'effectivement, ils peuvent devenir des usurpateurs. Mais non, je pense que le scientifique a cette humilité. Lié à son savoir, à la difficulté d'appréhender la réalité. Donc je crois qu'on n'est pas trop confronté à ce problème-là.
Vous, Philippe Walter, cette exigence par rapport à son savoir, et il n'aime pas sortir trop de son terrain, parce qu'il est exigeant par rapport à ce qu'il fait, normalement, un bon scientifique. Et donc du coup, c'est vrai que si on le pousse à parler de tas de sujets qu'il ne connaît pas, il se sentira vraiment malheureux, gêné, et donc il rentrera dans sa coquille. Et puis là, il n'y aura plus de communication. Alors que sinon, si on l'entraîne, là, son rêve, il peut l'exprimer. Et tous, je pense, peuvent l'exprimer. Et de manière de plus en plus facile. Aussi parce que la recherche a évolué. Donc le chercheur, qu'est-ce qu'il trouve ? C'est toujours ce qu'on dit. À quoi ça sert ? Maintenant, ce n'est même pas qu'est-ce qu'il trouve, c'est qu'est-ce que l'industrie va en tirer. Donc celui qui ne travaille pas pour l'industrie, il se dit, moi, je ne sers plus à rien. Mais tout ça, et maintenant, il travaille de manière interdisciplinaire avec beaucoup d'autres collègues. Donc lui aussi, il est spécialiste de son domaine, mais il a l'habitude de travailler avec l'autre et d'échanger avec l'autre de façon à faire une recherche commune. Et donc à partir du moment où cette interdisciplinarité s'est formidablement développée, notamment au CNRS, la communication vers le public, la diffusion de la culture scientifique devient beaucoup plus naturelle puisqu'on le fait entre nous dans notre propre métier. Et ça, je crois que c'est très important dans l'évolution de la recherche en France actuellement. C'est tout ce jeu de mélanger les cultures au sein même d'un même laboratoire. Et à ce moment-là, tout devient naturel. Donc nous, on le fait entre des historiens de l'art et des chimistes, entre des physiciens et des archéologues. D'autres vont le faire entre des chimistes et des biologistes, par exemple. Et de là, finalement, l'histoire de la cellule, du mécanisme moléculaire au cœur du noyau de la cellule, va devenir plus compréhensible, puisqu'on va trouver un autre mode de description. Par exemple, nous, c'est souvent quelque chose qui nous surprend. Le biologiste a besoin d'énormément de statistiques, d'étudier la variabilité qui existe dans la vie. Le chimiste a besoin d'un modèle, de plaquer les molécules, de les simplifier, de les décrire juste avec quelques systèmes très simples. Et finalement, quand les deux se confrontent et cherchent à discuter ensemble, ils sont aptes à diffuser auprès du public les savoirs, parce que chacun va surpasser sa spécificité. Et donc ça devient très intéressant en recherche, du coup.
Bernard Allot.
Non, pardon. Je voulais juste témoigner, effectivement, de ce croisement des regards qui est vraiment un moment extraordinaire de bonheur. Je voudrais juste témoigner du comité scientifique de la dernière exposition de CapScience, Consomme Attitude, qui est comment, au travers de notre consommation, ça impacte le développement durable. On avait décidé de mettre vraiment tout ce qui se fait de mieux, entre guillemets, au niveau recherche scientifique, sur le plan national, même européen, en se disant, on va faire du surbooking comme à Air France, on va en prendre 30, il n'y en a que 15 qui viendront. On fait 27 sont venus. Et on avait là des économistes, des philosophes, des sociologues, des écologues, des anthropologues. Et tous ces gens-là, qui étaient dans leur propre secteur, et qui étaient chacun des pointures, on a vécu des moments absolument délicieux. C'est d'ailleurs ce qu'il faudrait qu'on fasse et systématise maintenant, c'est d'enregistrer ces moments privilégiés où chacun s'ouvre à la culture de l'autre, au savoir de l'autre, et on a des moments mais d'une extrême intensité. Et ces gens-là éprouvent un bonheur, il y en a deux qui ont raté le train en se disant « mais non, je reste » parce qu'eux-mêmes ont éprouvé ce bonheur qui transpire en quelque part dans l'expo et au bénéfice du public. Donc ça suppose qu'effectivement, ça aussi, ça doit se médiatiser, ça doit se faire savoir. Que ce croisement des regards, cette fertilisation croisée, ces cultures qui se rencontrent, c'est quelque chose, c'est un vrai bonheur, c'est ça. Et aujourd'hui, on est encore trop sectorisé, on n'a pas de démarche transversale, et c'est, je crois, vers ça qu'il faut tenter d'aller, en mariant l'art, la science, le cinéma, tous les outils qui concourent, qui sont profondément humains et qui concourent à améliorer l'individu dans sa relation à son environnement.
Mais alors, quand on croise les regards, est-ce qu'on ne prend pas le risque aussi de faire sortir le scientifique de sa spécialité, de l'amener à s'exprimer sur des sujets de société ou d'autres sujets où il n'est pas expert ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de dérapage, entre guillemets ?
C'est un être humain, après ça dépendra du scientifique. Ce risque existe comme pour tout être humain. Un footballeur va parler de société, comme un chercheur, comme un journaliste.
Mais il peut
parfois un homme politique aussi.
Mais oui, et il devient très vite un crétin. Non, mais c'est parce que il est. Mais non, mais c'est ça. L'artiste est un roi dans son royaume, c'est-à-dire sur la toile. L'artiste, ou quand il touche la glaise, ou quand il tord le fer. Là, il est un roi. Mais s'il devient un roi des statues, est-ce que pour autant ça lui donne le droit de dire tout et n'importe quoi sur tout ? Ça, c'est un peu à travers de notre époque, mais c'est un travers médiatique. Il est très rare qu'on vous interroge, si vous faites un film, sur votre film. C'est pas ça qui est intéressant. On va vous interroger sur combien ça a coûté, ou si vous avez tué l'acteur principal. C'est ça qui est intéressant, maintenant. C'est plus le film. Mais l'artiste se retrouve exactement... Le scientifique, c'est pareil. C'est combien ça va rapporter, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Non, mais on a oublié que s'il n'y avait pas eu la recherche fondamentale, s'il n'y avait pas eu un type qui, à 20 ans, tout d'un coup, se dit « Ah, la résistance magnétique géante, on va faire quelque chose avec ça. » Albert Fer, quand il dit... Sinon, mais il n'y a pas toutes les découvertes qui ont été par la suite. Ça veut dire qu'il faut aussi respecter le temps, la patience, le regard... Et ça, c'est ce qu'ils font. S'ils vous parlent des cheveux, par exemple, de ces momies, et qu'est-ce qu'ils font avec des cheveux, vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Parlez-nous des cheveux. Qu'est-ce qu'on peut regarder dans un cheveu ?
On peut regarder beaucoup de choses, en effet, puisque c'est le cheveu, ça va être le vecteur, le support de toute une série d'éléments toxiques, par exemple, qu'on ingère. Donc on va pouvoir comprendre des problèmes de maladie. Ça va être aussi... Le support de toute une série de traitements cosmétiques. Donc on va pouvoir comprendre l'interaction entre la société et puis toute une série de techniques développées pour être beau. Mais ce cheveu, il est d'une momie ou d'un corps, d'un mort. Donc on va trouver des informations sur les rituels funéraires, de là sur la conception qu'une société pouvait avoir par rapport à la vie après la mort. Et puis ce cheveu, du point de vue du chimiste, c'est un ensemble de molécules. La kératine, vous connaissez, mais ces kératines, elles sont organisées. Alors c'est des petites hélices qui se mettent par deux, et puis par deux, après ça se met par paquet de deux, et puis après il y en a 12, puis après vous continuez, puis vous avez à la fin le cheveu. Et tout ça, c'est plein d'échelles. Et tout ça, moi je peux vous en parler pendant 3 heures, en effet. Ils vont raconter plein d'histoires autour de quelque chose qui apparemment n'est pas très important. Bon, voilà. Mais on peut raconter des tas d'histoires facilement. Puis aller chercher après des exemples en Chine, en Égypte, et puis dans la société moderne, de façon à raconter ces passages à travers le temps.
Alors, quand on parle de diffuser... Quand on parle de diffuser la culture scientifique, on parle souvent de vulgariser. Est-ce que c'est un terme avec lequel vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est un mot qui vous choque ?
Moi, ça ne me choque pas, mais c'est ce qu'on en fait. Encore une fois... Il y a un appétit de savoir, il y a un appétit de connaissance, ça dépend par qui c'est raconté. Je crois qu'il y a un minimum de respect d'une technique, d'histoire, de mise en situation, de mise en perspective. Voilà, si quelqu'un vous demande, par exemple, au journal télévisé à 20h de résumer la crise financière en 30 secondes, où est le crétin ? Le scientifique qui travaille pendant des années et qui va, il devient crétin parce qu'il va pas pouvoir y arriver. Voilà, c'est cette simplification, la vulgarisation, c'est quand ça, si ça devient vulgaire, c'est pas bien. Mais si c'est faire approcher, comme on vient d'en parler, le cheveu par exemple. Comment on arrive maintenant à travailler sur des momies sans les détruire ? Parce qu'il y a 20 ans. On la mettait en pièces détachées, elle était foutue, on la détruisait. Maintenant, non, on ne touche presque plus à rien. C'est presque pas invasif. Donc ça a bougé. Donc on est rentré dans un autre univers. Alors la vulgarisation, le mot c'est faire... Il faudrait faire appel à un sémiologue et puis retrouver l'essence des mots.
C'est vulgus, le peuple, je crois. Donc vulgariser, c'est mettre à disposition du peuple.
Ouais, c'est pas mal.
Mais je trouve que c'est pas mal. C'est
ça dépend partager. Si on le fait monter vers le ciel ou si on s'abaisse, faut faire monter vers le savoir.
Bernard Allot, vous êtes d'accord avec ça ? Vous vulgarisez avec la science ?
On essaie effectivement de vulgariser, en tout cas de faire partager. Alors c'est vrai qu'il faudrait un sémiologue pour nous dire quelle est la terminologie la plus adaptée. En tout cas, ce qu'on essaie de faire... C'est de prendre en considération... Nous, on n'existe pas, à la limite. On est à la fois à la place du public et à la fois à la place du scientifique. Et on essaie, avec un peu de générosité, de faire se rencontrer et de faire se partager ces deux mondes sans qu'il y ait, j'allais dire, une perturbation ni pour l'un ni pour l'autre. J'en veux pour preuve, quand je dis faire partager, c'est par exemple, on amène des jeunes à partager des recherches en direct qui sont en train de se dérouler. Je me souviens de chercheurs de l'Université de Bordeaux, des paléosédimentologues qui partent en Terre Adélie faire des prélèvements de sédiments et de carottage. Et on s'est dit, comment on peut faire partager, comment on peut expliquer, si ce n'est en mettant en direct, en contact, des étudiants, des élèves de lycée et de collège qui vont partager cette aventure. Donc on a envoyé un animateur de chez nous, un médiateur, qui a été sur le bateau de l'Institut Paul-Émile Victor, qui tous les jours nous envoyait un message, des photos de cette aventure, qui le recontextualisait, qui l'expliquait, avec l'ensemble des données, pas que scientifiques. Hein. Je décolle de Roissy, je suis à Hong Kong, je suis à Sydney, est-ce que vous avez toujours aussi froid? Non, ça va. Et puis petit à petit, la recherche qui approche, qui se développe. Et ça, je pense qu'on est complètement dans la dimension de la recherche et du partage. Et je crois que c'est ce qu'on essaie le plus possible de faire pour établir ce contact, ce partage, cette communion du savoir qui permet, à un moment donné, à un public d'être pris en considération, de dire ben, « vous pouvez comprendre ce qui se passe réellement dans des laboratoires de recherche ». Une anecdote encore, je ne veux pas abuser, mais on avait à un moment donné, les toutes premières expos de Cap-Science, on avait un bateau de l'Ifremer qui faisait des prélèvements de cadmium, ce métal qui arrive de Decazeville et qui pollue le bassin, enfin, va-t-il polluer le bassin, les huîtres de Marennes-Oléron ou les huîtres du bassin d'Arcachon? Mais ça, on a dit, mais ce serait bigrement intéressant quand même de faire en sorte que le public partage ces recherches qui sont en train de se dérouler. Bon, la plupart du temps, 99% des gens ignorent que c'est une préoccupation, que c'est un objet de recherche, etc. Donc on a établi d'abord un ingénieur CNRS qui est venu au sein de Cap-Science, qui a montré des images de modélisation. Marée haute, marée basse, on voit les pulsations, on met un peu plus de vent, un peu plus de houle, on voit ce camion qui hésite, etc. Et après, on a posé des questions aux chercheurs en direct, par téléphone, via le public, qui a posé des questions. Les chercheurs, au début, ils disaient « mais non, la location du bateau est chère, vous allez nous faire perdre du temps ». Et après, c'est eux qui n'arrêtaient pas de parler, etc. Donc on était là, bien dans une situation de partage, de communion, pour expliciter au public la réalité de ce qui se passe. Et ça, je crois que c'est important. Alors, je ne sais pas si c'est vulgarisé, mais c'est faire partager, quoi. C'est entrer dans l'univers d'eux avec une capacité d'écoute, quoi.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même important dans nos sociétés avancées, où tout est si complexe, et où la financiarisation et la marchandisation de tout fait perdre aussi certaines perspectives. C'est-à-dire, c'est un peu rassurant, les chercheurs, d'une certaine manière, surtout quand ils ont la capacité à aller chercher là où c'est pas nécessairement là où on leur dirait d'aller chercher. C'est réconfortant. D'une certaine manière, de découvrir qu'il y a des gens qui s'interrogent sur un certain nombre de phénomènes. Non, on n'est pas tout seul. Non, il y a des gens qui réfléchissent et qui ont des données et des explications à un certain nombre de nos problématiques. Et ça permet aussi à l'ensemble des citoyens que nous sommes de voter par la suite, parce qu'il y a aussi, il y a le commerce et il y a le politique. Et donc, la vulgarisation, ça permet aussi d'éduquer et d'élever aussi les gens pour qu'ils puissent faire des choix, comprendre qu'il y a des choses qui sont parfois faites alors qu'en fait, nous avons peut-être les moyens d'améliorer les choses. Il y a des grandes questions qui se posent à l'humanité, plus que jamais aujourd'hui. Et donc, c'est réconfortant en ce qui me concerne. Quand je suis allé au CNRS, j'en suis ressorti un peu moins pessimiste que quand j'y étais entré. Pas mal.
Ah, c'est énorme. Hein,
je dis un peu moins. Et je ne vous ai pas donné je n'ai pas évalué mon pessimisme.
Philippe Walter, vous qui êtes chercheur, vous êtes d'accord avec cette idée de vulgarisation? C'est un mot qui vous choque? C'est une notion
qui vous choque? Non, c'est pas du tout un mot qui me choque. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise de moins en moins. Maintenant, on va parler beaucoup plus de diffusion de la culture scientifique. C'est le titre de ce soir. C'est pas comment vulgariser. C'est vrai que la vulgarisation, on a eu parfois des déviances qui nous ont un peu chagrinés. C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de chercheurs ont hésité à participer à un certain nombre d'opérations. Mais ces capacités de transformer une recherche en une véritable aventure, en direct ou après, si on peut la recréer, c'est quelque chose de formidable. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment absolument nécessaire, et absolument nécessaire pour un équilibre normal d'un bon chercheur qui a besoin de raconter toutes ces histoires. Alors au début, on n'ose pas trop. Moi, je vois, au début, je n'osais pas raconter mon histoire à moi personnelle, pourquoi j'en étais arrivé là. Puis petit à petit, on ose et puis on se rend compte que les gens, ça les passionne. Mmh. Et là, pour ces aventures, j'ai un ami archéologue, anthropologue à Toulouse, qui fait des missions en Yakoutie, donc au fin fond de la Sibérie, sur de nouveau des momies congelées. Et cette année, avec le journal La Recherche, il a fait un blog. Ben, son blog a été un des plus vus de tous les blogs du journal La Recherche. Donc les gens, pendant le mois d'août, allaient voir tous les jours son commentaire sur sa découverte. Alors ça y est, ils ont commencé à fouiller, ils sortent la momie, qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, en effet, ils racontaient la nourriture exécrable, les 3 heures de marche pour atteindre le champ de fouille tous les jours, ou le voyage en hélicoptère pourri de la veille. Oui, mais alors... ça fait vivre. Et ça, on vulgarise formidablement, parce que du coup, on fait rêver les gens, et notamment les jeunes, parce qu'il y a pour voter, mais il y a aussi les plus jeunes, notamment à l'école primaire ou au collège, pour qu'ils aient envie de faire des sciences, ce qui est un enjeu aussi majeur aujourd'hui.
Oui, mais alors justement, je rebondis sur votre exemple. Tous les exemples que vous avez cités ce soir, ils sont très intéressants, parce qu'il y a des histoires humaines derrière, parce qu'on parle de momies, parce qu'on parle d'espèces disparues aujourd'hui en Aquitaine. Ce sont tous des exemples faciles à expliquer et qui parlent à tous les publics. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que la recherche a tellement progressé que lorsque les chercheurs font une découverte, on est vraiment sur le front de la connaissance, on est dans des sujets très, très complexes, et que vous nous parlez d'archéologie, d'animaux disparus, mais il y a la plupart de résultats aujourd'hui en physique ou en chimie, ben il faut s'accrocher pour les comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire
non,
avec ces résultats-là ?
Non, pas nécessairement. Catherine Bréchignac aurait dû être ici, là. Vous l'écoutez parler du microscope magnétique. Mais c'est extraordinaire comment on déplace des molécules. Mais c'est absolument fascinant. Et c'est extrêmement complexe. Et je vous assure que quand elle vous en parle, mais vous comprenez. C'est une question... bien sûr, il y a des choses qui sont extrêmement complexes et difficiles, mais je pense qu'on peut intéresser les gens aux expériences du CERN. C'est pas si compliqué que ça.
Mais alors, justement, beaucoup de chercheurs du CERN vont vous rembarrer en disant qu'ils en ont marre d'entendre que, au CERN, ils cherchent la molécule de Dieu. Qui cherche la présence de Dieu. Parce qu'il y a une simplification extrême. Non, pas seulement, malheureusement. Il y a eu souvent une simplification extrême pour réussir à faire passer le message. Oui. Un peu comme si les journalistes ou d'autres avaient le sentiment qu'ils n'arriveraient pas à parler des recherches menées au CERN tellement elles sont complexes sans simplifier.
La dernière étape d'évolution du CERN a eu les pires problèmes parce qu'on parlait de trous noirs.
Oui.
Et que le CERN mis en fonctionnement risquait de détruire la Terre. Donc on a sans arrêt ces délires. C'est vrai qu'il y a toujours cette limite. Après, entre ce que certains veulent faire mousser pour vendre peut-être des journaux, hein, là, si j'attaque plus les journalistes qui jouent ce jeu-là, par rapport à une vision des scientifiques. Mais le CERN, c'est une aventure humaine complètement folle, internationale, mondiale, avec des milliers de chercheurs.
Mais oui.
Ou quand on fait un article, il y a 500, 1000, 2000 auteurs qui ont travaillé ensemble sur le même sujet. C'est extraordinaire, même pour l'histoire de l'humanité.
C'est pour l'histoire de l'humanité.
Tant d'intelligence ensemble.
Est-ce que tous les moyens sont bons pour diffuser la culture scientifique? On parle de l'exemple du CERN. Il y avait eu un livre de Dan Brown, Angers Démons, qui s'appuyait sur le CERN. Est-ce que d'après vous, c'était un livre simplissime, j'allais dire. Est-ce que pour vous, c'était un bon moyen de diffuser la culture scientifique ou pas? Je sais pas si vous l'avez forcément lu, mais...
Je l'ai pas lu, alors je peux pas en
parler. J'ai pas lu, j'ai vu le film.
Si vous avez vu le film, dites-moi. Est-ce que vous, c'était une vision qui vous choquait?
C'est pas une vision scientifique.
Ben voilà.
C'est un film d'aventure, d'action, mais c'est pas une vision scientifique. Ça prend un prétexte scientifique, pseudo-scientifique. Et le but n'est pas du tout d'essayer d'expliquer ce qui est derrière.
Oui.
Le but est de créer un phénomène qui va engendrer une peur chez le spectateur, qui va faire en sorte qu'il aura envie de suivre le film, mais pas du tout d'expliquer des choses.
En même temps, c'est un ressort dramatique, la peur. Donc, il ne faut pas non plus que le citoyen ou l'homme, tout simplement, ait peur. Mais ça serait inquiétant, un homme qui n'aurait jamais peur. Moi, je reste beaucoup plus inquiet de quelqu'un qui n'a pas peur. Celui-là, il est dangereux. Donc, que les gens aient peur, c'est assez logique. Mais alors, il faut expliquer. Mais il y a peut-être un moment où on ne sait pas. Et ce moment-là, c'est vrai, quand on va asymptotiquement vers la découverte sans jamais l'atteindre, alors oui, il y a quelque chose qui nous dépasse tous. Et là, on peut résoudre les choses d'une manière ou d'une autre, et peut-être de parler de Dieu. Mais le CERN, c'est une expérience fabuleuse, fantastique. Ça donne envie de faire un film. Mais un film, pas forcément une fiction. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu de très, très belles animations en 3D, très intéressantes. Ça donne la... Il aurait fallu suivre. J'aurais volontiers fait ça. C'est une... Entre le moment où on a imaginé cette aventure et le moment où ça a commencé, ça commence par une panne. C'est fabuleux. En même temps, c'est pas du tout grave. Mais tout de suite, on se met à... Et puis sur le net, en effet, il y a des centaines de trucs avec des trous noirs. On voit la Terre disparaître dans un trou. C'est assez fabuleux. Mais c'est la peur de... C'est la peur de... C'est le manque de connaissances. C'est justement ça qui est terrible. C'est qu'on ne leur a pas expliqué.
Est-ce que pour diffuser la culture scientifique, il faut être forcément précis, très exact ? Est-ce que c'est gênant si on arrondit les angles pour faire passer plus facilement le message ?
En tout cas, j'ai envie de dire qu'il faut savoir cultiver le doute. Et je trouve qu'effectivement, bien trop souvent, en termes de science, le public attend des recettes et des réponses. Et je pense qu'il faut savoir participer à développer le doute, à essayer d'interpeller et interroger. Et quand on évoquait la vulgarisation, je pense aussi qu'il y a la notion de débat qui est extrêmement importante. Et que ces débats, il faut savoir l'élargir au grand public pour que le public soit le plus grand possible et le plus diversifié possible. Parce que ce qui me frappe très souvent au niveau des CapSciences, c'est que c'est souvent des gens à la limite qui n'ont pas besoin d'assister à ces débats qui y participent. Mais le Bordelais moyen, on ne l'y trouve pas. Et je suis assez fasciné par une expérience qui se passe au niveau de l'Île-de-France, que j'ai envie de reprendre ici. D'ailleurs, ils ont envie de faire des choses avec nous, qui consiste tout simplement à faire des débats de haut niveau et ensuite à emmener à la fois des personnes en difficulté, des femmes de ménage, à avoir des réflexions sur les nanotechnologies, sur l'évolution de la société, etc. Et je trouve que là, on est vraiment dans une dimension qui dépasse la vulgarisation, mais qui est de donner du sens. C'est appréhender la science dans ses implications sociales, philosophiques. Quand vous parlez du CERN, on a notre CERN ici, avec le laser Mégajoule. Le laser Mégajoule, c'est fascinant. Si on est technoscientiste, on a effectivement là quelque chose de fabuleux. Comment effectivement des ingénieurs polytechniciens ont fait en sorte qu'une personne de 80 kg marche sur une dalle de béton et ce béton ne doit pas bouger de plus d'un micron ? Comment les vagues du bassin d'Arcachon ne doivent pas faire bouger ce bâtiment ? Comment il est sous une cloche de fromage pour qu'à un moment donné les camions et que les faisceaux laser, ces photons, baignent dans un monde de lumière ? Comment toutes ces photons sont réunis pour faire un laser ? Que le laser qui n'est pas plus puissant au départ que le laser qui sert à nos instruments de musique et après part au milliardième de seconde, il tombe sur une cible qui fait le dixième de notre petit doigt, de l'angle du petit doigt, et ça crée la température du soleil. C'est fascinant. C'est fascinant de voir tout ça. Mais attention, ça peut avoir aussi des implications militaires, et d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus bénéfiques, sur le thème des récupérations d'énergie, l'énergie de demain, etc. Donc ça, ça mérite quand même des réflexions. Et je crois que tout un chacun a potentiellement en soi cette capacité de réflexion, d'identification du contexte, de ce que ça peut entraîner. Et c'est ça... non, alors c'est peut-être pas vulgarisé, mais c'est ça qui est important. C'est amener le public à appréhender les enjeux qui se trament derrière les recherches.
Vous avez parlé de peur. Et justement, on voit bien qu'il y a une tendance ces dernières années à une remise en cause de la science... qui n'existait pas il y a encore 20 ans, avec la montée de certains courants, comme le créationnisme, qui est finalement une remise en cause de tout ce que Darwin nous a appris, le tellurisme, plein de domaines comme ça qui surgissent et qui cherchent finalement à se positionner face à la science d'égal à égal, comme si la science n'était qu'une approche possible et qu'il y en avait d'autres qui étaient possibles au-delà de tout raisonnement scientifique. Est-ce que ce n'est pas un échec, ça, de la diffusion de la culture scientifique ? La montée de ces sens occultes, ces visions parallèles et de cette remise en cause de la science.
Mais c'est peut-être pas là, c'est peut-être pas la problématique de la seule science, mais une critique de la société, oui, du monde, de certaines orientations. Moi, je pense qu'on rentre dans un siècle de grande peur. Il y en a toujours eu, mais la science a toujours fait peur. Le savant fou, c'est quand même pas un truc qui est très récent. Ça existe depuis que la science existe. Mais avant, c'était les peurs, c'était le ciel. Qu'est-ce qui allait nous tomber sur la tête ? On a fait quand même des pas extraordinaires. L'homme a fait des pas extraordinaires quand il a commencé à inhumer l'inhumation, les grands tabous, etc. Bon, je pense que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des enjeux planétaires. Et donc, comme il y a un monde qui a fini par se standardiser, il y a des grandes peurs, mais ce n'est pas la science qui doit être nécessairement devenir le bouc émissaire de ces peurs-là. C'est plus c'est des questions qui sont politiques, qui sont philosophiques, qui sont religieuses. Tout est à mettre en situation. Et justement, par la connaissance, par l'éducation, on doit pouvoir lutter contre ces régressions. Moi, ce sont plutôt des régressions.
Mais il y a quand même eu des périodes de l'histoire où il y avait une vision plus positive de la science. Je pense au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Victor Hugo qui considérait que la société n'irait qu'en progressant grâce à la science. C'est une vision qui fait presque sourire aujourd'hui. On voit bien qu'on n'est pas dans une période comme ça, quand même.
C'est probablement la science qui va peut-être permettre à l'humanité de survivre. Alors, faut pas non plus... je sais pas, moi, je pense que la science a plus de choses à nous apporter. C'est qu'est-ce que le politique va en faire. Les excès de certaines industries, de certains commerces. Oui, c'est ça qu'il faut mettre. Mais c'est aussi les scientifiques qui peuvent étudier, donner la statistique, la réalité des chiffres, la réalité des faits, la réalité scientifique, la méthode scientifique, regarder les choses de façon instruite et non pas en disant ça va faire boum, oulala, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est l'éducation, la connaissance, la rigueur. Tout ça est dans la science. Donc la science, le positivisme était peut-être une bêtise, mais de dire que il faut la science, ça va être la démolition de l'homme, ça me semble stupide.
Et ensuite, la science comme vecteur de développement des connaissances ne rentre pas dans ce schéma-là. Ce qui gêne beaucoup actuellement, c'est les problèmes des développements technologiques, des développements techniques qui induisent d'autres choses. Mais ce n'est pas ce développement des connaissances. Donc là aussi, il y a deux étapes qu'on confond énormément entre science et technologie, science et technique, et la façon dont l'un va donner finalement les outils pour le suivant. Et ensuite, la société va avoir des craintes par rapport à tel ou tel développement technique, mais pas par rapport aux connaissances nouvelles qui sont apportées. Et là, on se trompe assez souvent là-dessus. Alors on parlait aussi, tout à l'heure, on en a parlé sur ces peurs et par rapport à la diffusion de la culture scientifique. C'est la question que j'ai posée. Cette exposition sur les araignées en ce moment à Bordeaux, les gens y vont pour se faire peur ou ils vont pour apprendre des choses sur les araignées réellement? Bon, vous ferez l'enquête.
C'est vrai que c'est une question que je n'étais pas forcément posée ou je sentais, mais je me la posais.
Et on adore transférer la science pour se faire peur. Et on ne garde pas les côtés d'évolution des connaissances.
Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux moyens, de nouveaux biais, d'après vous, pour diffuser la culture scientifique?
Inévitablement.
Ça a beaucoup déjà évolué. Les expositions aujourd'hui sont multimédia. Il y a des films, il y a des expériences, il y a des animations. On a vraiment des outils extraordinaires aujourd'hui. Donc on n'a même plus le droit de faire des choses pas intéressantes. Non mais ça c'est vrai, vraiment. Non. On a des outils extraordinaires. Mais il faut communiquer aux enseignants et aux scolaires l'envie et les regarder parce qu'ils disent des choses extraordinaires, y compris des gens qui n'ont pas forcément de connaissances scientifiques. Je crois qu'on peut intéresser tout le monde. Avec la science.
Alors, pour conclure, cinéma-science, c'est justement... Un nouvel outil pour diffuser la culture scientifique, en tout cas une nouvelle idée, puisque ce festival est unique en Europe, et qui vous propose donc de découvrir tout au long de la semaine dans les différents cinémas de Bordeaux des films dont la trame repose sur un sujet scientifique, et puis ensuite donc de mettre le public en contact avec les chercheurs lors d'un débat. Jean-Jacques Bénex, vous êtes le parrain de cette, pour la troisième année donc, de Cinéma Science.
Oui, je persiste, je signe. Ce que j'attends, c'est qu'il se passe quelque chose dans cette rencontre entre les films et des thématiques scientifiques, sachant que les films ne parlent pas forcément bien de la science, que le film qu'on va voir ne va pas relater quelque chose qui est exact, ça va peut-être être une peur, ça va peut-être même être quelque chose de scientifiquement complètement faux, mais il ne faut pas, mépriser la curiosité, et il faut essayer d'y répondre, et c'est pour ça que c'est important qu'on sache qu'il y a ce festival, qu'il y a ces rencontres, ces croisements, et que les scientifiques viennent répondre devant le public pour qu'on puisse continuer le débat et que ça suscite des vocations et que ça continue d'année en année. On va dire le réservoir imaginaire de la science est sans fin.
Merci à tous les trois. Merci.